Bonsoir et bienvenue dans votre quinzomadaire radiophonique préféré, forcément préféré. On y parle nouveaux talents, nouvelles idées ou nouvelle vision du monde. Ce soir, on va le faire. Peut-être un peu moins ou un peu plus, vous saurez ça dans une poignée de minutes. Mon invité est écrivain, mais avant de commencer, vous est-il déjà arrivé de trouver une solution qui vous plonge dans un problème pire que celui que vous pensiez d'abord résoudre? C'est ce qui arrive à Mika et Daniel quand, après une soirée arrosée et enfumée, je le rappelle, l'abus d'alcool et de drogue est dangereux pour la santé, les deux amis, donc Mika et Daniel, se retrouvent dans un projet délirant de vol d'un Maine Coon, un chat de concours qui répond au doux nom de Sunset de la Charlard... Oh là, Sunset de la Charladière. Les deux bras cassés se retrouvent vite rattrapés par la police, la justice et la patrouille, et pour échapper à la prison et peut-être réaliser enfin leur rêve de partir à la Réunion, ils doivent prouver leur bonne volonté. Pour cela, ils leur font un bon travail stable et décrocher de leurs addictions. Les deux acceptent et vont bientôt voir leur pote Tony, lui qui a réussi dans une entreprise de PTP. Il accepte de les embaucher et ils vont se retrouver sur un chantier d'enfouissement de déchets nucléaires. Ça, c'est pour le travail. Pour les addictions, c'est beaucoup plus compliqué, notamment pour Daniel et l'alcool, oui, car la bière, c'est de l'alcool. Commence alors un film qui pose la question de ce que peut ou pas l'amitié, des addictions aux substances, mais aussi aux personnes, le tout sans jamais être donneur de leçons. Je vous parle depuis le début de Météor, le deuxième film très réussi d'Hubert Charuel et Claude Plap. Commençons par dire la formidable distribution composée par, dans les rôles principaux, Salif Cissé, Idira Zougli et Paul Kircher. Si le premier interprète le patron de la PME, les deux autres composent avec humanité le duo de jeunes adultes un peu perdus. On ne sait pas grand-chose d'eux, de leur famille, de leur parcours, de comment ils se rencontraient, mais leur duo de potes, et c'est ça ce qui compte, est une évidence absolue à l'écran. On pense aussi aux travaux de Benoît Coquart, le sociologue auteur de Ceux qui restent, avec son sous-titre en forme d'antiprogramme absolu, Faire sa vie dans les campagnes en déclin. Le film réussit aussi à créer une drôle d'ambiance, que ce soit dans cette grande maison à moitié abandonnée habitée par Mika et Daniel, ou encore dans les merveilleuses séquences quasi abstraites filmées à Saint-Dizier ou sur ce chantier nucléaire dont vous vous souviendrez. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à aller voir Météor d'Hubert Charuel et Claude Lepape. C'est actuellement au cinéma et c'est beaucoup mieux que la manière dont j'en ai parlé. Et voilà, on atterrit avec vous, Jean Desportes, bonjour.
Bonjour, bonjour Christophe.
Vous êtes l'auteur de Clandestin familial, publié aux éditions du Rocher. C'est votre troisième roman après Braise de Star et Le Vestiaire américain, chez le même éditeur.
Chez le même éditeur,
vous
oui.
Vous êtes donc un homme fidèle.
Pour l'instant.
Clandestin familial, donc je le redis, aux éditions du Rocher. Quand j'ai écrit le lancement de cette émission, j'ai dit que mon invité est écrivain. J'avoue que j'ai eu envie pendant un quart de seconde d'être taquin, et vous allez me dire si j'ai eu tort de me priver ou pas, et de dire mon invité est un grand bourgeois au lieu de dire que vous étiez écrivain. Je trouvais ça drôle, mais je n'étais pas sûr que ça vous fasse rire.
Non, je pense que ça aurait été pas tout à fait juste.
Alors c'est ça le vrai problème, alors, si c'est pas juste.
Oui. Non, bourgeois, oui, c'est sûr. Grand bourgeois, je crois que c'est vraiment un niveau de fortune qui dépasse celle de ma famille.
Comment ? C'est la taxe Zucman.
Exactement.
Non, alors, pour expliquer, c'est le roman donc Clandestin familial raconte la vie des riches de Neuilly, on peut dire ça comme ça, pour commencer.
Je
me suis dit que pour beaucoup de gens qui nous écoutaient, c'était, je vous l'ai dit avant qu'on commence, un rendez-vous en terre inconnue, parce que c'est quand même un univers qui est peu connu, justement.
Alors, qui est peu connu et qui fait tout pour qu'il soit le moins connu possible. Et la meilleure façon pour qu'il soit le moins connu, c'est de racheter en fait tout ce qui pourrait s'intéresser à lui. Et donc, effectivement, les grandes fortunes qui vivent dans ces quartiers, hein, ça se passe à Neuilly, mais en fait, on retrouve ces mêmes quartiers à Paris et dans toutes les grandes villes de France. Eh bien, ces grandes fortunes adorent racheter les médias, les maisons d'édition. C'est aussi une façon de contrôler les discours. Donc, effectivement, je pense qu'on saura de moins en moins ce qui se passe derrière les grilles des belles avenues arborées de ces quartiers.
Vous aviez envie d'être sociologue ? Parce que vous inscrivez dans une tradition un peu du roman sociologique. Et vous intéressez vraiment aussi à décrire comment fonctionne ce milieu-là ?
Oui, c'est vrai que je pense que les gens et leurs mœurs me fascinent, surtout quand ces mœurs sont en contradiction avec des choses aussi qu'ils revendiquent. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans une famille de tradition catholique, et donc on va à la messe, on écoute les évangiles. Et les évangiles, en fait, c'est souvent un récit assez punk. C'est-à-dire que quand on écoute le Christ qui dit au jeune homme riche, voilà, laisse tous tes biens, vends tous tes biens et suis-moi, c'est assez c'est punk. Et évidemment, le jeune homme riche ne le fait pas. Et à Neuilly, il y a une sorte de contradiction dans ces quartiers où à la fois on écoute ça à la messe et finalement on fait tout pour garder, je dirais, le magot et surtout que personne ne s'en rapproche, quoi. Et donc il y a une sorte de, je dirais, de hiatus, voilà, qui devrait créer un environnement dysfonctionnel, mais en fait non, tout fonctionne. Et c'est cette espèce de théâtre, moi, qui me fascine.
Je pense même que si quelqu'un disait à leur fils suis-moi et laisse ta fortune, ça serait un drame.
Absolument. Ce serait surtout non, ne fais pas ça. Voilà.
Tu restes à la maison et tu partages. D'ailleurs, c'est très amusant que vous parliez de ça parce que j'ai raconté ma vie, mais j'écoutais récemment dans la série Salle des archives sur France Culture, oui, le portrait de Jacques Chirac. Jacques Chirac n'est pas de Neuilly, mais en tout cas, à un moment de sa vie, il a une tentation de partir et il part aux États-Unis et ses parents vont le rechercher. Et ça me fait penser à ça, ce que vous dites, par la peau des fesses, du genre non, on ne fait pas ça quand on est de nos familles, on épouse et on suit la carrière.
Alors, tout à fait, parce qu'en fait, ce sont des entreprises dynastiques, hein, c'est-à-dire que les familles se construisent, elles se consolident, elles consolident leur base pour à chaque fois être un peu plus influentes, un peu plus puissantes, voilà, dans la pyramide sociale. Et on sait très bien qu'en fait, on ne construit pas une famille sur une génération. Donc en fait, c'est un effort qui a été entrepris par les arrière-grands-parents et qui doit être maintenu et en évitant les pièges de l'existence où parfois des héritiers vont tout flamber, vont faire n'importe quoi. On peut le voir dans des successions ratées comme la succession Lagardère, par exemple. Mais justement, on veut absolument se prémunir de cela. Et donc, tous les héritiers, tous les enfants sont éduqués de façon très stricte pour, en fait, maintenir plus tard les intérêts de leur famille.
Alors, on est donc, vous l'avez dit, dans une famille bourgeoise catholique. On est à Neuilly-sur-Seine. On est chez les Vuillard, donc une famille avec, on est plus particulièrement, pardon, avec le père Hubert et son fils Antoine. On est conservateur et peu à peu, on va découvrir, comme la famille, enfin, est-ce que la famille le découvre ou pas, que le fils est homosexuel. Est-ce que c'est cette histoire-là que vous lui racontez d'abord, ou pour revenir à ce qu'on disait juste avant, c'était le milieu social? Qu'est-ce qui vous intéressait le plus, vous?
Les deux, c'est-à-dire que cette histoire-là, elle me permettait de vraiment mettre à jour les tensions qui traversent ce milieu social. Et parce qu'au fond, c'était créer une sorte de secret de famille ou de tabou de classe et le faire prospérer et voir en fait comment est-ce que l'univers se recomposait autour et comment est-ce que en fait il y avait 1000 stratégies d'abord d'évitement ou qui se mettaient en œuvre pour faire en sorte que cette situation absolument impossible n'arrive pas, quoi.
Impossible pour eux, pour les parents. Impossible pour le milieu social, impossible.
Pour tout, en fait. Impossible pour les parents, mais impossible pour aussi le milieu social. Ce que je montre aussi, c'est qu'évidemment, on peut parler de la violence de la bourgeoisie envers les autres, ceux qu'elle contrôle via l'économie, les entreprises, les organisations qu'elle pilote. Mais c'est d'abord une classe qui est violente pour elle-même.
Entre elle-même.
C'est-à-dire qu'il y a une compétition terrible entre toutes les familles, et toutes les familles s'espionnent. Chaque famille regarde à côté comment ça se passe, s'ils font mieux, et s'ils font mieux, comment est-ce qu'eux-mêmes ils doivent mettre en œuvre des solutions pour finalement rattraper. Et c'est toujours des courses, et on le voit, et ça ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire, en fait, il y a des courses aujourd'hui dans les familles les plus riches de France pour savoir qui sera la plus riche. Et donc, il y a eu la compétition entre la famille Pinault et la famille Arnault. Là, c'est sûr que c'est la famille Arnault qui a mis quelques longueurs d'avance, mais c'est toujours comme ça.
Mais, pardon, je voulais réagir à ce
que... C'est toujours comme ça, sans charité, dans un univers finalement qui se revendique chrétien. Donc c'est ça qui est très curieux. C'est-à-dire, il n'y a pas d'indulgence. Il n'y a pas d'indulgence.
Ce que je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur le fait que la famille, elles étaient en compétition, et elles ont aussi des lieux où elles se retrouvent. Là, par exemple, puisque c'est des familles catholiques, vous montrez comment, encore une fois, c'est un roman, hein, c'est pas du tout un essai. Voilà, on est en train de faire croire aux gens que c'est un essai, mais toute la famille se retrouve dans des cercles chrétiens, à des moments privilégiés. Le père Hubert a tout son cercle habituel avec lesquels il parle de spiritualité. Ça est organisé aussi.
C'est très organisé, et ce qui est amusant, c'est que là, vous citez en fait deux cercles, puisqu'il y a deux cercles. Il y a le cercle spirituel.
Oui, puis il y a le cercle professionnel, pardon.
Et il y a le cercle professionnel. Mais ce sont des cercles. Et donc, à chaque fois, on se constitue un entourage sur mesure pour aborder telle question de sa vie. Donc, la vie spirituelle et morale, en fait, ce sont des cercles de prière qui se forment à la paroisse. Et ces cercles, finalement, SM, hein, sont des organisations. Il y en a beaucoup partout en France. Et donc, ce sont des petits groupes de paroissiens qui se réunissent une fois par semaine pour parler de leur vie spirituelle et de ce qui se passe dans leur famille.
Est-ce que si on en profite pour se comparer et voir
qui... Bien sûr. C'est-à-dire on prie ensemble et en même temps on demande des nouvelles des uns et des autres et on va tous prier pour l'une ou pour l'un parce que en fait ça se passe un peu moins bien chez eux. Donc c'est à la fois du soutien, mais c'est très compliqué. Et de l'autre côté, il y a effectivement les cercles professionnels où là c'est beaucoup plus business. Donc on est à nouveau entre gens de la même condition. C'est des cercles comme il y en a plein à Paris. Hein. Donc voilà, si ce sont des cercles d'affaires, ça va être par exemple le cercle de l'Union Interalliée. Ça va être par exemple
Là ils ont leur club où ils vont dans le Bois de Boulogne.
Oui, et puis sinon, alors, il y a les cercles
sportifs, c'est encore autre chose.
À nous, tout est question de cercle. Mais en tout cas, effectivement, pour sa pratique sportive, il y a à nouveau un cercle sportif. Donc c'est un club, c'est une enceinte dans le Bois de Boulogne qui est un espace public, mais là, il y a quand même des enclaves privées, on ne le sait pas, où il y a de magnifiques terrains de rugby, des piscines, des salles de gym.
Et on socialise aussi, on rencontre des gens, et où en fait le business continue toujours.
Et alors le business, il passe effectivement de l'un à l'autre, et en fait, on se retrouve toujours... mais dans des sphères de sa vie un peu différentes. Donc on peut retrouver la personne qui est dans son cercle de prière, mais au cercle sportif, parce qu'on échange quelques balles de tennis ensemble, quelques sets, et puis on peut la retrouver dans le cercle d'affaires, et puis après, on les retrouve dans sa géographie familiale, donc, c'est-à-dire là où on réside, donc toujours dans des quartiers très très définis, et puis même en vacances, on va recréer des cercles de vacances qui sont finalement ces stations balnéaires, qui sont toujours des petites enclaves, qui n'ont rien à voir avec les terrains où elles se situent. Par exemple, on va arriver sur une petite île vendéenne, mais il y a un quartier qui ne ressemble en rien aux habitats, je dirais, vernaculaires, parce que là, on a construit des villas, des pavillons, etc. etc. C'est pareil à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, il y a le petit village de pêcheurs, bien sûr, mais il y a surtout les parcs de Saint-Tropez, où là, on a construit des villas, tout est absolument gardé, et puis on se retrouve à nouveau entre soi.
Alors, ça serait une erreur de croire que c'est qu'un roman qui raconte le fonctionnement de ces cercles, parce que c'est aussi un roman dont l'interrogation souterraine est celle... d'Antoine, il s'appelle bien Antoine,
bien sûr.
Qui est comment réussir à être ce qu'on est quand on a appris que ce qu'on était ne pouvait pas exister.
Voilà, c'est toute la difficulté. C'est aussi une façon de décrire, je crois, l'emprise de tout milieu, un tout petit peu, je dirais, constitué de façon un peu rigide. Hein. Je crois qu'on peut retrouver ça à tous les niveaux de la société. Mais en tout cas, là, lui, il découvre qu'il est quelque chose qu'il ne sait même pas exister, puisqu'évidemment, dans son référentiel, on ne l'a jamais montré. C'est-à-dire, tout ce qui pourrait faire penser justement à des amours de même sexe est... n'existe pas.
Les programmes autorisés à lire juste un extrait de c'est vous qui l'avez écrit, hein, donc j'ai des grands auteurs. Quand je me glisse docilement dans le costume qu'on m'a réservé chez l'un de ces tailleurs directs du quartier des affaires qui voient défiler sous leur maître ruban des générations de père en fils, à croire qu'ils me connaissent mieux que moi. Désolé, mais les coupes standards avec épaulettes molles et tissu terne pour tous les jours de la semaine, cela ne me correspond pas. C'est ça, ils me connaissent mieux que moi.
Oui, c'est même pas. En fait, le sujet, c'est même pas. En fait, ce qui est rigolo, c'est que il y a pas de place pour l'individualité. Au fond, l'idée, c'est de faire corps. Et ça, je dirais que c'est l'ancienne organisation sociale traditionnelle où en fait l'individu compte moins que le groupe ou que la classe, et l'individu doit se mettre au service d'eux. Et donc, souvent je dis, en fait, il y a plein. Parce que l'histoire, on croit toujours à un récit univoque de l'histoire, mais en fait, moi, je crois qu'il y a des bulles d'histoire qui vivent ensemble. Et par exemple, dans cet endroit-là, dans ces milieux-là, je pense que mai 68 n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Donc, c'est une bulle ailleurs, qui a affecté la société française. Mais là, ça n'a pas eu lieu. Donc, en fait. Voilà, les revendications, je dirais, d'Antoine, qui est quand même connecté à son époque, n'ont pas lieu d'être, puisque, en fait, il se trompe.
Vous avez cette phrase, hein, vous dites « Je ne peux m'empêcher qu'on est discriminé jusque dans sa propre famille, ou qu'on commence peut-être par là, ou que ça commence peut-être là ».
Oui, je pense que ça commence par là. C'est-à-dire que si on voulait vraiment réformer la société, il faudrait sans doute d'abord réformer les familles. Et donc, à chaque fois, on dit la société, mais en fait, ça se passe d'abord, je dirais, dans les plus petites sociétés ou les plus petits pays que sont les familles. Parce que lui, découvrant que finalement, lui, il préfère les garçons que les filles, il y a tout un... enclenchement qui fait qu'il n'aura pas les mêmes droits. Il n'aura pas de mariage, hein, tout simplement. Même si le mariage a été voté, en fait, c'est encore très compliqué dans cette famille pour que ça soit possible. Et à partir de là,
il a le droit de venir, mais pas trop avec son compagnon.
Voilà,
on accepte, mais il faut trop rien dire.
Exactement, il n'aura pas la même proximité même avec ses propres grands-parents qui, eux, évidemment, se précipitent au mariage de ses sœurs, mais lui, n'ayant pas de mariage, donc il n'aura pas les photos avec ses grands-parents et son conjoint. Pareil sur les maisons de famille, en fait, comme il est célibataire ou juste en couple avec un homme, au fond, ça ne lui sert à rien d'avoir des grandes maisons de vacances. Donc en fait, les grandes maisons de vacances, elles vont plutôt échoir à ses frères et sœurs, etc., etc. Ou parce que comme ça n'est pas exactement l'héritier qu'on voulait pour les parfums Vuillard, eh bien en fait finalement on va se débrouiller pour que l'entreprise échoue plutôt à son petit frère qui est beaucoup plus dans le monde de la finance et enfin voilà, c'est et aussi parce qu'il y a plein de préjugés, c'est-à-dire on ne le croit pas capable, on se dit ah bah non il va pas savoir faire, le monde des affaires c'est comme un
en
peu
plus
de...
il a pas fait les bonnes études.
Et en plus, il n'a pas exactement fait les bonnes études, parce que lui, il aime bien la communication, et donc il va faire une belle école, hein, qui est le César, mais qui ne rentre pas
mais
dans la grille.
Il ne fait pas une grande école.
Il n'est pas considéré comme une grande école par sa famille.
Pardon, donc, bien sûr.
Comme il n'a pas fait une grande école, eh bien, il ne peut pas prétendre à être successeur. Enfin, tout est comme ça, quoi.
Je voudrais quand même dire que le père est un peu plus compliqué, peut-être, que ce qu'on a laissé croire jusqu'à maintenant, le Hubert. Puisque d'abord, il commence par vivre à Levallois-Perret en retrouvant sa moderne. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Je suis peut-être le seul, mais bon. Il a une espèce de rêve d'Amérique à Levallois-Perret parce qu'il a vu sur la Défense.
Oui.
Oui. Avant d'aller à Neuilly, il commence par rêver autre chose parce qu'en fait, ça se passe sur 30 ans. Le roman se déroule sur 30 ans et on voit aussi 30 ans d'évolution de l'économie française.
Oui.
Du moment où les parfums Vuillard dont vous venez de parler sont tout puissants, en tout cas, sont encore une marque de patrimoine, puis peu à peu déclinent.
Oui.
Vous vouliez raconter ça aussi en même temps
Oui, ça m'intéresse.
Comment aussi, pardon, je vous coupe la parole, mais comment il avait. Le père a rêvé aussi de d'expansion internationale avec son ami qui est consultant dans un grand cabinet avec qui il a des points réguliers et voit comment il pense qu'il va réussir à inonder la Chine avec des licences et puis bon, oui. Ça se terminera pas très bien.
En fait, c'est aussi pour raconter, je dirais, toute la financiarisation de l'économie qui est à l'œuvre depuis les années 80 et qui aujourd'hui à mon avis est un vrai problème auquel on est confronté, auquel la société française est vraiment confrontée, c'est-à-dire que cette financiarisation de l'économie dans le sillage de la mondialisation a créé une accumulation de fortune pour certains qui ont pris en fait fait et cause pour cette financiarisation, en même temps qu'elle a beaucoup dévitalisé plein de pans de l'économie, et je souhaitais raconter ça, c'est-à-dire que, mais là je fais une toute petite aparté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'État est énormément endetté, on lui fait peser finalement tout ce qui ne rapporte pas d'argent, c'est-à-dire l'éducation, la santé, etc., mais en même temps dans les années 80 on l'a privé de tout ce qui lui rapportait de l'argent, c'est-à-dire que on a privatisé la région Renault, on a privatisé Air France, on a privatisé France Télécom, on a privatisé Bull, on a tout privatisé, Boussac, etc. Le privé disant qu'il allait mieux faire et que donc il y aurait plus de rentrées fiscales, mais qu'est-ce qu'a fait le privé ? Il a tout financiarisé et fait de l'optimisation fiscale et donc l'État se retrouve un peu démuni. Et donc je voulais aussi raconter ça, c'est-à-dire cette course à l'argent mais qui à la fin crée la propre perte de l'entreprise Vuillard qui a arrêté d'investir sur ses recettes, sur ses formules de parfum pour vendre des licences et puis à la fin, la marque est totalement démonétisée puisqu'elle se retrouve sur des savonnettes en supermarché. Et donc, malheureusement, la messe est dite, quoi.
Je voulais savoir si dans votre livre, il y avait une dimension, alors non pas autobiographique, mais vraiment sociologique, parce que moi, il y a une histoire qui m'a beaucoup perturbé. C'est celle du réseau de callboys composé de callboys. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça quand il y a des callgirls.
D'escort,
voilà, on dit d'escort, pardon. Je cherche mes mots. D'escort boy, des beaux quartiers, ça existe ça ou vous l'avez inventé?
Oui, ça existe, c'est sûr.
Bon. Voilà. Moi je souris.
Oui. J'en suis persuadé. Oui. Tout bon. À fait. C'est-à-dire que le babysitting ne rapporte plus assez. Mais parce que à nouveau,
on reconnaît votre humour noir.
On est dans cette inflation où en fait, on s'achetait, un
polo Lacoste. Aujourd'hui, il faut quelque chose de beaucoup plus cher si on est un garçon chic.
Exactement. Avant, on s'achetait une carte de téléphone et puis maintenant, en fait, il y a l'iPhone, qui coûte beaucoup plus cher. Donc.
Et comme on est dans des familles où l'argent de poche est rationné, parce que l'argent c'est mal. En même temps, on ne pense qu'à ça. Mais
l'argent est rationné pour apprendre la valeur de l'argent. Mais comme en même temps, on est dans une société qui est vraiment hyper consumériste, quoi. Et donc évidemment, les jeunes sont soumis à cette espèce de paradoxe où en fait, ils ont quand même envie de pouvoir dépenser.
Vous savez, il y a cette phrase qu'on prête à Victor Hugo, puisque en préparant l'émission, on n'est pas sûr qu'elle soit de lui, hein, que le forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Votre roman, c'est un chapitre, pratiquement un chapitre sur le père, un chapitre sur le fils. Et je me suis demandé si, en fait, on avait deux monologues qui coexistent, mais est-ce qu'un dialogue est possible entre ces deux-là ? Parce qu'en fait, il n'a jamais lieu dans le livre, le dialogue.
Vous avez raison, c'est le fils qui regarde le père, le père... mais qui est aussi la parole, je dirais, de la mère et de l'entourage familial et social qui regarde le fils. Et avec une sorte d'incompréhension, ça c'est vrai. Il ne parle pas beaucoup, mais c'était aussi pour montrer qu'il y a encore beaucoup de figures paternelles qui ne parlent pas, en fait. Où en fait l'échange, s'épancher, dire ses sentiments, dialoguer en se mettant sur le même niveau, parce qu'en fait un dialogue, ça exige d'être sur le même niveau. Or là, il y a toujours cette figure un peu paternelle qui est sur son piédestal, parce qu'elle en... Elle considère que c'est comme ça qu'elle va être respectée ou que c'est son rôle. Donc là, c'est sûr que c'est un peu patriarcal, mais ça montre que, effectivement, voilà, pour qu'il y ait un dialogue, il faut déjà qu'il y ait une sorte d'horizontalité.
Cherche quelqu'un. J'ai rencontré dans les coulisses le son, l'ivresse et les délices de ceux qui longtemps avant moi y avaient droit à cette vie-là. Tu sais, parfois ça sent l'arnaque. Y en a qui se cassent, y en a qui raquent. Y a ceux qui se taisent, qui rasent les murs. J'ai leurs empreintes sur mes serrures. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris. Pour compte, pour retracer une seule rencontre, pour retenir à mon insu un déjà vu que j'ai jamais vu. Je suis rentrée par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure, d'une vue qui donne sur l'infini, d'un demi-siècle, d'une longue nuit. Tu sais, parfois ça sent la faim, y en a qui se mangent, qui se doutent de rien. Qui te plaisent, qui parlent sans feinte. J'ai mes serrures sur leurs enceintes. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, amour, Paris, toujours, Paris, je te quitterai jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je te promets. Que Paris, un jour, Paris, toujours, Paris, tu tiens.
Voilà, c'était Kerenan, Paris, Amour et Neuilly, on va savoir bientôt. On est toujours avec Jean Desportes pour Clandestin familial aux éditions du Rocher, c'est la relève. On en profite pour vous signaler qu'en novembre 2019, on recevait Hugo Bienvenu pour un roman graphique qui s'appelait Préférence Système. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est que dans deux jours sort Arco du même Hugo Bienvenu et qu'on est très fiers de l'avoir reçu à l'époque. Voilà, vous pouvez retrouver l'émission qu'on avait fait avec lui sur le site de radiocampusparis.org. Il faut qu'on fasse vivre un peu ses archives. Vous tapez la relève, Hugo Bienvenu, et vous la retrouvez. Et on avait même parlé à l'époque du dessin animé sur lequel il travaillait. Vraiment, on avait tout bien fait. Un jour, on réécoutera vos émissions quand vous aurez le prix Goncourt.
Mais merci.
Alors, Neuilly, c'est amour ou pas?
Alors, Neuilly, c'est amour?
C'était juste pour faire la transition avec la chanson. Non, on n'est pas obligé. Un amour compliqué.
Oui, un amour compliqué. Non, mais... La ville en soi est agréable, hein, c'est sûr. Il y a des grandes avenues bordées d'arbres avec des contre-allées, des plates-bandes, et puis ensuite, voilà. Des
allées privées avec des maisons avec des jardins, moi j'ai découvert.
Oui. C'est ça. Et dans cette ville qui est assez sûre, hein, pour être sûr vraiment d'être en sécurité, eh bien, il y a effectivement ce qu'on appelle les villas privées. Donc, c'est des rues qui sont fermées à toutes leurs entrées par des grilles avec gardiens. Et parce qu'on se méfie peut-être aussi presque des gens du quartier. Donc, mais la méfiance n'a jamais de limite, quoi. Donc,
on est vraiment dans un comportement obsidional, comme
peu,
on dit.
Un peu.
Je vais raconter la fin du livre, enfin presque, noter un paradoxe, me semble-t-il intéressant. Dans notre époque, on s'intéresse beaucoup aux transfuges de classe. On n'oublie pas une bonne partie d'entre eux, c'est-à-dire celles et ceux dont vous dites qu'ils choisissent de descendre l'échelle.
Oui.
Comme votre héros. Enfin, peut-être, oui, c'est un héros, Antoine, d'une certaine façon.
Oui, c'est un héros ou un anti-héros, mais c'est vrai que on parle beaucoup de ceux qui montent, comme si vraiment, en fait, on souhaitait à tout le monde d'être le plus haut possible, et de se dire, et vraiment, c'est ce qu'on veut dans notre société, hein, ces espèces de sommets de pyramide dorés, où en fait, il a fallu à peu près tuer tout le monde pour être là-haut. Mais moi, je questionne aussi ça. Est-ce que, peut-être pas à cause d'une sorte d'égalitarisme tarte à la crème, je me pose la question de ceux effectivement qui eux descendent aussi, qui descendent de leur marche pour simplement s'ouvrir aux autres un peu en dessous, quoi, et leur filer un coup de main.
Vous dites, hein, vous écrivez, hein, je vous cite, hein, car je sais qu'on ne parle jamais de ceux qui humblement sont la liaison est difficile. Car je sais qu'on ne parle jamais de ceux qui humblement sont prêts à descendre un peu de leur échelle. C'est là que se produisent les authentiques rencontres, il est temps que j'aille me coucher, celles qui n'étaient ni espérées ni attendues.
Bah oui, parce qu'en fait, effectivement, on fait tout pour créer les rencontres espérées et attendues. C'est ce que je raconte aussi dans le livre avec tout le système des rallyes où en fait, on veut absolument que les jeunes gens et jeunes filles de bonne famille se rencontrent, comprennent qui est leur père, qui peut être un conjoint potentiel. Et donc, c'est presque des rencontres organisées. Mais donc, est-ce que ce sont des vraies rencontres? Non, c'était des rencontres qui étaient téléphonées, quoi. Donc, effectivement, c'est en sortant de ces schémas-là, quitte à aller voir un peu ailleurs, qu'effectivement, là, il peut y avoir vraiment des vraies rencontres
Vous avez dans votre roman aussi une très belle formule pour parler de l'amour conjugal. Votre narrateur, Antoine, écrit « Avant, j'avais un appartement, j'ai désormais un foyer. » J'ai pas pu m'empêcher de me poser la question. Est-ce que là, c'est aussi le rédacteur en chef du site internet Slof, qu'une revue de décoration qui parle? Là, j'essaie de tout synthétiser en 1 minute 30,
bravo,
pour la fin.
Non. Oui, foyer. C'est sûr que le foyer, c'est une question qui m'occupe énormément avec ce magazine dont vous parlez, Slof, qui est le premier magazine dédié à l'habitat compact entre 15 et 70 mètres carrés, pour ne pas regarder toujours vers le haut et vers les trucs absolument immenses qu'on ne peut pas se permettre, mais regarder ce qu'on peut faire aussi avec ses propres moyens au moment où l'immobilier se renchérit, etc., etc. Et je trouve que ça rend plus service aux gens. Mais oui, le foyer, c'est une question qui m'obsède, et je pense que l'amour, l'amour, c'est ce qui fonde un foyer. Deux êtres.
Qu'est-ce qui change dans un appartement quand il devient un foyer?
Comment ?
Qu'est-ce qui change dans un appartement quand il devient un foyer ?
Tout, je trouve que...
C'est, les gens ne vous voient pas, mais vous avez les yeux qui s'allument.
Oui, c'est-à-dire, c'est une sorte de je ne sais pas, ça devient une entité nouvelle, bienveillante, accueillante, dans laquelle on a plaisir à rentrer le soir. C'est plutôt que les murs froids et un peu vides de son appartement, en disant, mais comment est-ce que je vais faire pour habiter ce lieu, quoi ? Un foyer, c'est un espace qui devient habité tout seul.
Ok, écoutez, merci beaucoup Jean Desportes, je redis donne le titre de votre roman, Clandestin familial, c'est publié aux éditions du Rocher, le quatrième est déjà prêt en première partie.
Je défends celui-là et puis je m'intéresserai à un prochain une autre fois.
Ok, bah écoutez, on vous suivra avec plaisir.
Merci beaucoup Christophe.
Je vous en prie. C'était la... On est bien élevé ici, on dit je vous en prie. Oui. On n'est pas à Neuilly, mais presque. C'était La Relève, c'était préparé, présenté par Christophe. C'était réalisé ce soir par Simon. Cette émission et toutes les précédentes, vous pouvez les retrouver sur le site de Radio Campus Paris. Dans maintenant un peu moins de 29 minutes, pardon, vous pourrez retrouver la matinale à 19h. Bonne soirée, à bientôt, à dans 15 jours, on parlera encore de livres.